Copie pas, Pierre-Luc Pomerleau, t'es dans un angle où tu pourrais regarder sur ma feuille. Oui? Laisse-moi te raconter l'histoire de ce guitariste milieu des années 60 qui se réveille en pleine nuit. Il fait comme, j'ai une idée de riff de guitare. Il commence à s'enregistrer, donc il y a une enregistreuse pas tellement loin qui actionne, il pogne sa guitare. Puis
il dort avec sa guitare, c'est quand même particulier.
Il dort pas loin de sa guitare, pour vrai. En fait, il était sur le divan chez lui, il s'était endormi, puis il se réveille un moment donné un peu fiévreux. Et il amène l'enregistrement à son partner du band. Et là, son partner du band fait comme, ben là, c'est quoi l'affaire? Là? C'est, on entend comme 2 minutes de guitare, puis après ça, 40 minutes où tu ronfles. Il s'est endormi en enregistrant. Mais donc, il y a 2 minutes de guitare au début. Et ces 2 minutes-là, il a fait comme, il y a peut-être quelque chose à faire avec ce petit bout de guitare-là. Lui, il fait comme, ben non, ça ressemble ben trop à telle toune. Jaillit ce bout de guitare-là. Il dit, non, il y a quelque chose à faire. Finalement, son partenaire a eu raison pour notre plus grand plaisir, parce que ça aurait pas existé. Keith Richards haït cette chanson-là, mais il voulait pas qu'elle vienne au monde.
C'est fou!
Il y a un band qui est en tournée, planétaire, puis à un moment donné, un soir, dans leur hôtel, il y a le drummer du band qui passe à côté de la porte de la chambre du chanteur. Puis il entend quelque chose. Il entend le chanteur qui chante un air à guitare. Il fait comme, mon Dieu, c'est quoi ça? Mais c'est donc bien bon. Et ça reste là. Le lendemain matin, il va voir son chum et il dit, hey, ce que tu jouais hier dans ta chambre, j'ai passé à côté. Puis c'est quoi ça? Ah, ça, il n'y a pas question que c'est rien. C'est une chanson que j'ai faite à ma blonde parce que quand je suis loin, je m'ennuie. Puis elle aussi. Puis c'est la balade que je lui chante de temps en temps. Je fais ça depuis 6 mois. Mais voyons donc, faut que ça soit sur notre album. Non, c'est personnel. Ça ira pas sur notre album. Le band s'est ostiné avec lui. Il a finalement accepté. S'il avait refusé, puis ça tourne de sa blonde, là, on n'aurait jamais connu ça. James Hetfield, Nothing Else Matters, au début, ça s'appelait No Matter, c'est So Close, No Matter How Far. C'est comme ça que lui, il l'avait appelé. Puis il dit, écoute, Lars Ulrich a entendu la version, il avait le téléphone à côté, puis il faisait juste le finger picking, le tapping du début. Puis il dit, voyons, c'est donc bien hot, cette mélodie-là. Faut absolument qu'on l'endisque. C'était une rupture avec leur son aussi à cette époque-là, mais Metallica. Oui. Mais on n'aurait jamais connu Nothing Else Matters. Il y a un guitariste qui rentre en studio, puis le groupe est en studio, puis c'est un album assez charnière dans leur parcours, fin des années 80. Et le guitariste, c'est comme, là, j'ai un problème. Là, j'ai le début d'une toune, j'ai la fin d'une toune, mais je suis pas capable de régler le milieu. Et les gars sont en studio pendant une semaine sur la foutue toune. À un moment donné, le producteur de l'album se tente. Il va voir l'ingénieur de son et il dit là, pendant le break, tu vas effacer cette tune-là parce qu'on n'arrive pas, on n'en vient pas à bout de déboguer cette chanson-là. Puis là, fait comme non, on la laisse là, moi je peux pas faire ça parce que les gars vont être en. On va trouver. Eux autres, ils voulaient faire la tune ultime de stade. C'est un groupe qui faisait des shows dans des stades. Puis ils disaient, ça ne prend une tune qui va faire ça. Finalement, l'ingénieur de son a eu raison d'ostiner le producteur. Quand les gars sont revenus du break, ils l'ont débogué là. Et on n'aurait jamais connu cette chanson-là si on avait écouté Brian Eno et effacé ça. Il voulait l'effacer. Il a fallu que physiquement, il l'empêche de l'effacer.
Incroyable.
Voyons donc. Des fois, ça repose sur pas grand-chose.
Ça repose sur rien. Il y a un chanteur australien plus près de nous. Lui, il est en train de monter un album. Puis là, il fait comme, oh my God. C'est un défi, des fois, artistique de... qu'une chanson soit logique ou qu'un texte soit logique, peu importe, il faut qu'il y ait de l'harmonie dans l'affaire. Et lui, il est en train d'écrire une chanson sur laquelle il planche depuis longtemps puis il trouve pas la clé pour la déboguer. Il demande même à sa conjointe, sa blonde de l'époque, de chanter dessus. Puis j'ai besoin d'une voix aiguë, mais en même temps, ça me prend une voix aiguë, mais ça marche pas. Puis là, il y a vraiment un solide problème avec la chanson. Il est sur le bord de l'abandonner. Son producteur, son ingénieur de son, dit « Attends un peu, j'ai peut-être quelqu'un qui a la voix que tu cherches. Écoute, on va l'essayer. Si c'est pas ça, on la scrapera. » Finalement, ils ont approché ce chanteur-là de la Nouvelle-Zélande et le chanteur australien avait trouvé son match. Et si c'était pas arrivé, on n'aurait jamais connu ça.
Gauthier
et Kimbra. C'est Kimbra qui a sauvé la toune. Ils en ont vendu 8 millions de copies de cette chanson-là. Wow. Une immense chanson.
Mais c'est vrai que la voix est importante.
La voix est super importante. Puis c'était pas féminin. Il fallait être assez haut. Donc, on va dire une affaire. Ça aurait jamais existé.
Le gros fun le matin. C'est confirmé. Il est ici.